Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien par les temps qui courent, rencontres, tous les soirs, quelqu'un pendant une heure. Ce soir, Inger Cervolin.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux ramassait la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Créer une coopérative pour produire des films en 1967 sans appartenir à une lutte politique précise, mais en accompagnant quantité de luttes sociales différentes. Faire slalomer les pellicules entre les ciseaux de la censure, prendre des trains de nuit, conduire des voitures remplies de boîtes en fer, faire le tour des télévisions européennes pour vendre des images qui ne pouvaient pas toujours être diffusées en France, imaginer un mode d'organisation du travail où l'argent manque parfois, souvent, mais pas les idées et pas l'élan, imaginer un mode de travail où chacun, chacune avance dans le même but avec son propre savoir-faire. Inger Cervolin, c'est une partie de l'aventure que vous avez mené de front avec beaucoup d'autres, comme le réalisateur Chris Marker, mais mené tout de même, si l'on en croit les récits qui composent le portrait qui vous est consacré par Maria Lucia Castrillon dans un documentaire qui s'appelle « Lettre à Inger » où il est question de Sloane et Iskra, qu'on va présenter dans un instant. Bonsoir à vous et soyez la bienvenue.
Merci, bonsoir à vous.
Quand on vous demande, quand cette réalisatrice vous demande de faire un film qui quand même va ressembler à un portrait, vous réagissez comment, Inger Cervolin?
Je dis non. Je dis non, 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 je veux bien être enregistrée en son pour les archives, pour qu'effectivement elle reste une trace de cette aventure qui a quand même été absolument formidable, même si constamment assez angoissant en même temps. Mais Maria Lucia a réussi avec beaucoup de patience et beaucoup de doigté, je pense aussi, et je crois avec beaucoup d'amitié à mon égard, à me convaincre de prêter mon image aussi. Mais je pensais pas que le film allait plaire comme il semble plaire et intéresser le public. Et bon, ça, je dois dire que je suis très, très, tout à fait ravie, très contente, parce que ce que je tiens beaucoup, c'est pas mon image que je trouve importante, mais les films qui restent, parce que c'est pour ces films que moi, j'ai essayé en tout cas de me battre, et résister aux pressions qui parfois s'opéraient autour de moi, pour qu'on fasse des films moins politiques, moins engagés et peut-être moins critiques aussi, souvent, même si on a des films comme par exemple le film sur une maison de retraite pour les personnes âgées, et qui effectivement montre une maison qui fonctionne très très bien et où les vieilles personnes sont heureux. Donc c'est pas absolument c'est pas une règle absolue de critiquer le système, même si quand même on a trouvé pendant toute notre existence jusqu'à maintenant très souvent des sujets de critiques très très présentes dans la population, et c'est vrai aussi que on a toujours trouvé que dans les médias, sauf certains, qui laisse pas la parole à ceux qu'en fait non, on n'entend jamais. Et c'était une de nos politiques, c'est de chercher des sujets où effectivement on pouvait entendre ceux dont on s'occupait peu et qu'on n'entendait jamais. Voilà.
D'ailleurs, dans ce film, il y a un moment donné où cette question de la parole, parler, revient beaucoup, comme si c'était, en effet, faire des films était aussi, voilà, produire une quantité de discours qui, par ailleurs, n'avait pas tant de place que ça, Inger Cervolin. Mais j'ai donné ces deux noms-là, Sloane et Iskra, qui sont aussi des sigles. C'est presque des prénoms, Sloane et Iskra, mais ce sont aussi des sigles. Est-ce que vous nous diriez ce que c'est ?
C'est lié à Chris Marker, les deux. C'est lui qui a baptisé Sloane et aussi Iskra. Et ça, Sloane, c'était l'abréviation du nom de l'opérateur en chef, on peut dire, sur le ciné-train d'Alexandre Medvedkin, qui est un film fétiche de Marker et de nous tous, parce que c'est un film assez extraordinaire que nous avons pu faire en version française en 72. Il est sorti en salle et ça a été aussi une certaine bataille avec donc l'Union soviétique à l'époque, Sovexport Film, qui n'était pas très facile à convaincre et discussion avec eux n'était pas toujours simple. Mais on a réussi et ça c'est aussi Chris Marker, bien sûr, qui était à l'œuvre. Et ça, c'est pour Sloane. Et Iskra, c'est vrai, c'est deux symboles politiques. D'une part, c'est le premier journal de Lénine, Iskra, et aussi, c'est Étincelle en russe. Chris Marker, je fais une parenthèse là, c'était quand même un grand admirateur de la culture russe. Et donc Iskra, ça se réfère aussi à l'étincelle peut mettre le feu à toute la plaine de Mao Tse-tung, bien sûr. Bon, c'était pas non plus un maoïste, mais on pouvait pas dire que Chris Marker était un adhérent à grand chose, sauf à Sloane. Effectivement, il était connu pour ne pas s'inscrire dans des partis ou de justement d'être à l'écoute de tout ce qui se passait d'important et d'intéressant. Et surtout, comme on a toujours essayé de faire, nous, après sa disparition d'une part, mais aussi une fois qu'il a voulu un peu pas rompre avec Sloane et Iskra, parce qu'on a continué à avoir des relations très amicales jusqu'à sa mort, mais il a quand même eu droit, il faut dire, après 10 ans de s'être consacré à des films politiques et très engagés et qui ne rapportaient pas de l'argent et qui ne le faisaient pas vivre, de se consacrer à ses propres projets. Et il disait toujours que j'en ai trop pour le temps que j'ai à vivre. Voilà.
C'est une mention importante que vous faites là, Inger Cervolin, parce que dans ce film, c'est bref, mais c'est à mon sens primordial la manière dont vous dites que ces deux sociétés de production, coopératives de production, n'ont jamais...
Iskra, je vous interromps, Iskra est une SARL.
Société.
Voilà, société, et dont je suis encore la gérante.
C'est important, on y viendra, voilà. Parce que c'est aussi une évolution des modes de travail dans votre parcours et puis pour ces deux maisons. Mais en tout cas, ces endroits-là n'étaient pas des endroits liés à des luttes politiques précises, je le disais en introduction, mais comme vous le précisez, une forme d'accompagnement des luttes en cours. Et vous dites dans le film que ça ne vous a pas toujours attiré les amitiés de tout le monde, de n'être pas rattaché à un mouvement en particulier.
Non, mais moi je ne l'ai jamais été comme... Et je crois tout le monde à Iskra toujours, qui pratique la même politique, les mêmes goûts et les mêmes opinions, plus ou moins que moi. On est différents tous, mais c'est vrai que je n'ai jamais été membre d'aucun parti. Et c'est vrai que au début des années 70, quand il fallait être partisan et très partisan, on se faisait critiquer beaucoup à Sloane par les maoïstes. On était réviso, c'était l'appellation de l'époque. Et pour les Parti communiste et les cégétistes purs et durs, on était des gauchistes. Donc, on était mal vus, en fait, par les groupes. C'est vrai qu'on avait les seules vraies bonnes relations qu'on avait avec un groupe politique, c'était avec les trotskistes. Et c'est vrai, je sais pas pourquoi. J'ai jamais réussi à analyser ce phénomène. Pourquoi? Mais c'est aussi parce que peut-être les trotskistes à l'époque étaient quand même très visés par un peu tout le monde aussi. C'était peut-être ça.
En tout cas, c'est un portrait, ce film, qui permet de non seulement de prendre conscience de l'époque dans laquelle se sont créées ces maisons, mais aussi de ce que c'est que de produire des films, de ce que c'est que ce métier. On va écouter Georges de Beauregard en 1967, justement.
Vous savez, dans le cinéma français, il y a toujours eu ce qu'on a appelé des crises. Et nous sommes obligés en France, si vous voulez, d'agir comme des artisans. Nous n'avons pas de moyens financiers, c'est-à-dire que l'industrie du cinéma est dans le système économique français une industrie tout à fait mineure. Par conséquent, le gouvernement, et d'ailleurs d'autres gouvernements qui l'ont précédé, n'ont jamais attaché, si vous voulez, une grande importance aux moyens financiers du cinéma. Or, pour faire du cinéma, il faut de l'argent pour faire un film. C'est une condition essentielle. Je dis toujours, le cinéma, ce sont des idées et de l'argent.
Le travail du cinéma, c'est pas uniquement une fête, quelque chose de très amusant, mais c'est un travail véritable et ça prend du temps.
Donc, des idées, de l'argent et du temps, Ingar Cervolin, puisque c'est votre voix qu'on a fait se juxtaposer avec celle de Georges de Beauregard, 1967, et cette voix lors d'une présentation de Sloan à Montréal en 1974. Vous diriez que ce sont de bons ingrédients, des idées, de l'argent et du temps?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, il faut beaucoup de temps. Il y a des films sur lesquels on a travaillé pas tout le temps, bien sûr, mais régulièrement, pour essayer de finaliser et de pouvoir produire pendant 6-7 ans. Ça nous est arrivé sur plusieurs films. Donc, il faut de la persévérance. Et je crois aussi que là, on a été plutôt des femmes à mener cette barque. Et je crois que ça a quelque chose à voir aussi. On est peut-être un peu plus persévérant et plus obstiné, on a peut-être moins d'ambition de la même sorte que les hommes. Et je crois que c'est important dans le contexte qu'on avait à travailler dans le temps. Il faut de l'argent, il faut du temps. Et là, on peut revenir à ici, aujourd'hui, par exemple. Nous avons aujourd'hui, on a calculé qu'on a à peu près 40% de financement, de budget, comparé à même il y a 5 ans. 40% de ce qu'il y avait à l'époque. Et je dois dire qu'on a été un peu tout le temps sur la limite de tenir le coup financièrement. Mais aussi, on a toujours eu de très bonnes relations avec les banques qui nous faisaient confiance. Et je dois dire que là, c'est pas des philanthropes, loin de là. Mais on a pu, on avait confiance, on avait leur confiance. Et donc, on a pu avoir des facilités quand même un peu. Mais c'est vrai que ça a été très juste souvent. Et tout le temps. Sauf au début des années 90. Pendant 3, 4, 5 ans, ça allait vraiment. On avait des vrais budgets pour la première fois et la dernière. Et c'était grâce à la loi Langue des années 80, fin des années 80, qui a changé complètement notre méthode de travail et notre manière de produire aussi.
Et ça a donné des films différents, Ingar Cervolin, cette période-là?
Pas vraiment, mais un peu quand même, parce que c'était vraiment la première fois qu'on a pu, moi j'ai quand même produit avec Pousselon et Iska pendant 20 ans avant d'avoir le premier film co-produit ou acheté, pré-acheté par
la France.
Par France Télévisions, et sauf deux qui étaient sur des sujets étrangers. Et là, bon, ça se comprenait, c'était sur les Landes, surtout. Et sur le Chili après le coup d'État, en 73.
Ça veut dire que pendant 20 ans, vous présentiez très régulièrement, je crois une fois par an, Ingrid Cervolin à la télévision française. Vous veniez avec les films produits par Sloan et vous aviez un refus catégorique de transmettre ces films-là.
Oui, c'était assez intéressant parce que j'y allais y visionner les films avec moi parce que c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Et j'amenais mes bobines et oui, d'accord. Et il trouvait que c'était très intéressant. C'était des personnes intelligentes d'ailleurs et qui avaient des connaissances profondes de ce qu'on pouvait faire. Iskra et Aslan. Mais il disait, mais c'est pas pour nous.
En argumentant de quelle manière?
Mais sans argument vraiment. Non, sans. Et je savais que j'allais pas avoir des arguments. Vraiment de plein gré et sincère. Parce que je pense que beaucoup de ces personnes, ils aimaient bien, ils auraient peut-être bien aimé personnellement présenter certains des films. Mais le système ne le permettait pas. Parce que c'était souvent quand même critique vis-à-vis du système politique français. Parce que c'était des films sur la situation en France, la plupart du temps.
Et ben, on va y revenir très précisément, mais je saute sur l'occasion que vous précisiez avoir mené cette barque-là principalement avec des femmes, Inger Cervolin. Dans le film qui vous est consacré, il se trouve qu'on entend parler votre mari et vos deux fils, et l'un de vos fils dit, sans aucune hésitation, en parlant de Chris Marker, oui, dans les films de Chris, il y a toujours eu une femme, et je crois que c'est un réalisateur qui avait besoin de femmes pour lester. Pour lester ses entreprises, lester ses projets, mettre une forme de poids. Comment vous entendez ça?
Oui, non, mais je pense que c'était une constante chez lui. Il avait beaucoup, très grande confiance dans les femmes, à mon avis, hein, je crois. Et je crois qu'il aimait la présence des femmes. Et c'est vrai que j'ai eu de très bonnes relations avec lui. Pendant tout ce temps, c'était quand même très longtemps, 10 ans de travail quasi quotidien, c'est assez remarquable parce que c'est des travaux, des sujets, des domaines qui sont assez compliqués à gérer, où il peut y avoir des désaccords assez facilement, et à résoudre des problèmes, et c'est vrai qu'il nous faisait vraiment confiance. Et c'était un féministe, d'ailleurs, moi, je crois.
Ça ressemble à quoi, la confiance d'un cinéaste envers ses productrices ou envers une équipe de production? Ça veut dire quoi?
Oui, non, mais je crois que là, avec Chris Marker, c'est quand même très particulier, parce que c'était un homme très rare, et très, très particulier, très unique. On a eu des relations de totale, je crois, confiance avec une bonne partie de nos réalisateurs et réalisatrices, parce que chez nous, il y a aussi beaucoup de réalisatrices. Il y a Stéphane Mercurio, il y a Anne Kounvari, il y a Dominique Cabrera, par exemple, pour ne citer que il y a Anne de Galzin, et je crois que ce sont toutes des femmes qui comptent sur nous et qui savent que si nous disons que nous allons les accompagner et les suivre et essayer faire autant qu'on puisse faire pour que le film voit le jour. Elles savent que on va le faire.
Ça va dans les deux sens. Ça veut dire que vous aussi, oui, vous avez grande confiance,
voilà,
en elles ou en eux.
Mais ça, c'est une des choses que je trouvais très important. Et je crois que l'équipe actuelle aussi en général suivent, c'est de dire que on peut être très enthousiaste pour un projet, mais voir très vite qu'on ne peut pas travailler avec la personne. Donc, dans ce cas, je crois que c'est une porte ouverte à toutes sortes de conflits. Je crois qu'il est important de pouvoir s'entendre et de savoir qu'on veut le même film. Et nous, on est très présents tout le long du travail sur l'écriture, parce qu'on tient beaucoup à l'écriture, au dispositif, à l'esthétique. C'est pour ça que quand on parle, quand on confond documentaire, film documentaire et reportage. Moi, j'ai rien contre les bons reportages, mais c'est pas la même chose. Et il n'y a pas la même approche et le même dispositif du tout. Nous, on travaille beaucoup en amont et on travaille beaucoup en aval. Les deux vont ensemble, par exemple, avec le numérique. Moi, je suis pas très à l'aise avec le numérique, mais avec la pellicule, je trouvais ça très amusant. Je pouvais vraiment trouver qu'on pouvait jouer d'une façon qui était particulière pour quand il s'agit de la pellicule. Mais avec le numérique, c'est vrai que c'est très différent. On fait vite, on peut faire vite, on peut monter vite. Nous, on a toujours pour une heure de film, on a 10-12 semaines de montage parce qu'il faut quand même réfléchir, il faut bien regarder les images, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dire et quelles images on choisit, parce que un film, ça, il faut pas oublier, il y a beaucoup plus d'images que ce qu'on voit à la fin et que c'est un choix qui doit mûrir. C'est très important. Et donc là, avec aujourd'hui tous les systèmes qui vont vite, 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 tout de suite et tout ça, c'est...
On peut avoir le risque que ça manque un poil de pensée, quoi.
Ben beaucoup. Bon, pour moi, je trouve. Hein. Parce que là, aujourd'hui, les chaînes françaises ne prennent quasi plus de films politiques. Vraiment engagé politiquement. C'est très rare. Et c'est vrai que là, on a des projets qui sont archi actuels aujourd'hui, hein, par exemple, sur ceux qui ne votent plus. Et c'est une personne très, très, très intelligente, très, très fine qui veut le faire, mais
vous avez du mal à le vendre.
Aucun intérêt, jusqu'à maintenant, en tout cas, de la part de la télé, et c'est vraiment d'une actualité brûlante. Et c'est pas un survol sur des choses, c'est très profond. Et il y a des personnages qui sont déjà interviewés, qui sont vraiment très poignants et très, très intéressants. Bon, ça, c'est un. Et il y en a d'autres sur le camp des réfugiés à la Porte Chapelle, la Chapelle, pareil. Et donc, si vous voulez, les chaînes, aujourd'hui aussi, on a commencé avec le numérique d'avoir un peu des conflits, pas grave, mais...
Mais c'est plus une question de temps et de temporalité, une guerre cerf-volant, que, oui. Que de technique, finalement, parce que quelqu'un qui se donnerait le même temps de pensée et de mûrissement du montage avec un outil numérique, au final, c'est pareil.
Ben oui, ça devrait être pareil.
C'est une question de temps.
Mais techniquement, parce que les chutes, toute la manipulation était tout autre avec la pellicule, bien sûr. Donc déjà, il fallait tout ce temps-là pour mettre en place, pour manœuvrer la machine et tout ça. Et donc, ça, c'est pour ça que c'était classique, 10-12 semaines pour un 52 ou un 59, comme on essayait de faire souvent. Parce qu'un film, ça a une durée logique, hein, en fait. C'est dommage qu'on puisse pas, mais c'est le formatage qui est vraiment de mise dans toutes les chaînes et tous les pays aujourd'hui. Et ça, ça colle pas avec le vrai cinéma, quand même.
Et ça, vous avez un mini espoir que ça bouge ou pas du tout?
Écoutez, pour l'instant, pas trop. Mais je ne perds jamais l'espoir, heureusement. Non, non, c'est important de ne pas perdre l'espoir. Pour tout, d'ailleurs, pas seulement pour le temps de montage, mais pour tout. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, on est quand même beaucoup plus menacé aujourd'hui de disparaître que même il y a 30 ans. Pourtant, c'était archi difficile. Quand j'avais commencé en 67, 68, quand on a vraiment voulu fonder Sloan, ceux qui se connaissaient dans le métier de production me disaient, mais vous tiendrez 6 mois. C'est ce qu'on me disait régulièrement. Hein. Et on a tenu, mais à cause de phénomènes qui nous appartiennent à nous. Et si j'avais travaillé de façon classique, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu tenir, ça c'est évident. Mais si on était établi en Belgique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de censure, parce qu'ici, on aurait été interdit assez vite, je crois.
Moi, j'ai trouvé que ce film-là était aussi un film sur qu'est-ce que c'est qu'inventer ses propres méthodes de travail. Qu'est-ce que c'est que de réfléchir à travailler collectivement. Et quand vous dites une guerre cerveau-là, si j'avais travaillé de manière plus classique, on aurait tenu 6 mois, en effet. Alors, vous avez travaillé comment pendant toutes ces années?
Ben, écoutez, je ne peux pas vous dire exactement comment on a travaillé, parce que ça change avec tous les films. Hein. C'est jamais le même, mais je crois qu'à la base... On a travaillé très collectivement, tout en sachant... Je crois qu'à l'époque où j'ai commencé, il y avait un travail collectif qui était très très prisé, très très. On parlait beaucoup de collectivité, hein, mais en fait, il faut... je crois que ce qui venait absolument naturellement chez nous, c'est que on respectait les goûts et les couleurs de chacun. On n'allait pas tous faire la même chose de la même manière.
En faisant une force aussi, si j'ai bien compris, c'est-à-dire.
On peut pas savoir quand on commence parce qu'on connaît pas. Aujourd'hui, on peut réfléchir sur le passé et on peut dire bon, mais effectivement, c'était une force, mais c'était quelque chose qui, à mon avis, venait très naturellement. Et c'est vrai que je respectais pas beaucoup les méthodes des autres. Aussi parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens, personne n'avait de l'argent à mettre dans Sloan. Et à Iskra, on a pu quand même, en 1974, fonder une société en France, ce qui était important. Mais là, on était obligé carrément pour produire d'une façon plus classique, parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à toutes les aides du CNC, par exemple, si on était une association, une coopérative, et c'était beaucoup plus lourd comme gestion. Donc, on a opté pour le SARL, et voilà.
On revient en 67-68 avec un extrait d'À bientôt, j'espère.
Yo-Yo et ses jeunes militants ne sont pas plus vaincus à Noël qu'ils n'étaient victorieux au printemps. Dans un cas comme dans l'autre, ils continuent d'apprendre.
Ah, la grève de Rodian n'est pas un échec, parce qu'ils veulent donner un Noël à leurs gosses et ils sont obligés d'aller travailler. Et ils savent qu'on a raison. 10 000 travailleurs, on peut estimer à 10 000 travailleurs, ont perdu une journée sans... Comme ça, là, c'est pas un exploit, ça, non, c'est ça la solidarité, c'est quelque chose de formidable. Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux ou à ce que nous dit France Dimanche, c'est quand même formidable, c'est une autre gueule, non?
Oui, c'est sensationnel, mais il y en a qui n'en sont pas conscients.
Quoi. C'est pas sensationnel, c'est normal, c'est la classe ouvrière. Et,
et
c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi, que les gens, que c'est pas les conneries qu'on nous raconte qui sont belles, c'est parce qu'il n'y a pas dans France Dimanche ou dans Ici Paris, mais c'est dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le développer. C'est pas de la culture, ça?
Un extrait d'À bientôt, j'espère. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce film comme vous me feriez en bonne productrice, Inga Servolin?
Oui, bon. Je dirais justement que ça, c'est typiquement un film qui représente Sloan et Iskra. Parce que justement, Yo-Yo, c'est Yo-Yo qui parle, hein, après Marker qui parle du fait que c'est pas fini la bataille. C'est typiquement ce qui nous intéressait dans toutes ces bagarres des années 60 et 70, en particulier peut-être, fin 60 et début 70. C'était de donner la parole à ceux qui ne l'avaient jamais. Toute une des pans de la société, et qui toujours d'ailleurs n'ont jamais la parole, mais on peut revenir sur les Gilets jaunes par exemple. Une bonne partie de ces personnes sentent qu'ils sont oubliés, qu'on s'occupe pas d'eux, et que l'état de bienveillance qui avait été fondée après la dernière guerre, qui était quand même assez remarquable, était déjà en train de commencer quand même à s'évanouir quelque part. Et aujourd'hui, je trouve que c'est assez inquiétant ce qui se passe. Et c'est vrai que ce film est vraiment, c'est notre étendard, un peu, je dois dire, depuis toujours. Et il fait partie de ce coffret sur les groupes Medvedkin, et qui a une nouvelle édition, d'ailleurs, depuis peu de temps, qui est édité et produit maintenant par les Mutins de Pangée, et qui ont fait un travail remarquable avec un livre, un vrai livre, avec des illustrations qui sont très belles et intéressantes. C'est à bientôt, j'espère. C'est vraiment le film, et c'est le premier film dont je me suis occupée. Je n'ai pas produit, parce que c'était avant mon temps, juste au moment où je commençais à m'intéresser au cinéma, parce que je reviens un peu sur les méthodes et tout ça. Moi, je crois aussi, c'est parce que j'étais tout à fait néophyte dans le cinéma. Je connaissais rien, je connaissais même pas la différence entre négatif et inversible quand j'ai commencé. Bon, j'ai appris très vite, mais j'étais bonne en chiffres, je savais calculer et je savais ce qu'était un contrat. Et je crois que de mon ancien boulot, qui ne m'intéressait pas trop, c'était un gagne-pain et c'était dans un milieu tout à fait amical, mais c'est vrai que ça, c'était pas tel que j'ai découvert le groupe autour de Chris Marker au moment où on produisait, coproduisait le film Loin du Vietnam.
Mais vous expliquez aussi dans ce portrait qui vous est consacré que tout à l'heure on a parlé des films qui pouvaient se faire pendant de longues années avec un long mûrissement, et il y avait aussi des films qui demandaient à être tournés après un coup de fil à 3 heures du matin dans la nuit, et il fallait débarquer sur une occupation de terre agricole ou dans une usine à 8 heures du matin et être prêt à avoir de la pellicule directement. C'est aussi ça le contraste intéressant, c'est que c'est aussi une maison de production qui devait se rendre extrêmement réactive à l'ère du temps.
C'est ça. Oui. D'une part, mais aussi parce que, justement, ça ne pouvait se faire que parce qu'il y avait des bénévoles. Ceux qui travaillaient dans le cinéma classique et qui gagnaient leur vie comme ça, et qui consacraient du temps libre pour, justement, se consacrer à des films comme les nôtres, films engagés, et pour eux avaient un intérêt personnel. Et souvent, ce n'était pas toujours des membres de Sloan. Et il s'agissait très vite de trouver, effectivement, de la pellicule, caméra, le son, les gens, et tout ça. Mais on était toujours des équipes très réduites, forcément. Il y avait un ingénieur du son et un cameraman, et le producteur. On ne se considérait pas comme producteur. On faisait partie de l'équipe et on était solidaires du sujet, d'une part, mais aussi de ceux qui, effectivement, venaient avec le projet. Et ça pouvait se faire. Effectivement, c'est un extrême, la parcelle. C'est très fascinant comme petit film. Techniquement, pas peut-être le plus abouti.
Pour resituer, quelqu'un qui refuse.
C'était un cumulat, comme on disait, mais c'était un paysan tout à fait du terroir, avec qui on ne pouvait pas distinguer des autres. C'était pas un obereau, non, mais qui avait accumulé des terres et qui ne les utilisait pas, qui les laissait soit en friche la plupart du temps. Et à l'époque, il fallait autant de terres à cultiver pour obtenir des prêts auprès des banques.
Du Crédit Agricole, notamment.
Voilà, Crédit Agricole, entre autres, oui. Et donc, il y avait un cumulat qui n'utilisait pas ses terres, et un jeune agriculteur qui n'avait pas assez de terres. Et il y a toute une... les syndicats, les voisins solidaires de ce petit jeune, et qui sont venus occuper la ferme. Et c'est assez poignant de voir le cumulat, le paysan qui effectivement possédait la terre, et sa femme, comment ils essayent de se défendre. Donc c'est un très joli film, mais je veux dire, Il a été fait avec plusieurs origines de pellicules. C'est comme à bientôt, j'espère d'ailleurs, qui techniquement aussi n'est pas absolument clean. Mais c'est pas ça qui était le plus important, même si esthétiquement on était assez exigeant, tout à fait. Mais là, c'est le sujet qui importe et il fallait faire avec ce qu'on avait. Donc, on pouvait tourner avec de l'inversible, du négatif, de la couleur et du noir et blanc des fois ensemble. Et tout sortait en noir et blanc parce que la couleur était trop chère au tirage, bien sûr.
Est-ce que vous voulez bien dire quelques mots sur les groupes Medvedkin, justement ?
Oui. Bon, c'est toujours, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore en vie. J'avais surtout deux grands amis, Jo Binetruy, qu'on voit beaucoup bientôt, j'espère, et qu'on voit ailleurs aussi, et qui voyageait souvent avec les films, et très souvent avec Henri Traforetti, qui lui est en vie et qui est resté un très bon ami. C'était les plus proches de moi, mais Paul Seb aussi. C'était quand même des personnes avec des itinéraires assez particuliers et très intéressants chacun. C'était des batailleurs, tous les trois. Paul Seb était beaucoup plus un dirigeant, hein, et c'était un type très autoritaire, très engagé. Tous les trois. Paul Seb, je le connaissais bien. Mais c'était pas comme Henri et Georges, qu'on appelait Jo, que je connaissais beaucoup plus leur itinéraire et leur façon de se batailler, s'engager culturellement, justement. C'est ça qui a été formidable avec Paul Seb et le groupe. C'est des gens qui avaient été amenés, d'ailleurs, par Peuple et Culture et tous ces groupes d'après-guerre qui bataillaient avec souvent la CGT, le Parti communiste, mais aussi avec les chrétiens de gauche. Il y avait des mouvements qui vraiment étaient très engagés dans le fait d'apporter la culture et la culture ouvrière, la culture populaire, pas seulement la culture bourgeoise, parce que dans le milieu ouvrier, ils pensaient vraiment très sincèrement que la culture, c'était pas pour eux, quoi. Et là, ils ont appris à lire des grandes œuvres, à aller au théâtre.
Et aussi à faire leurs propres images et apporter leurs propres histoires.
Oui, mais ça donne confiance. Donc, ils ont compris qu'ils pouvaient faire aussi. Et c'est eux qui ont, c'est à la suite, à bientôt j'espère, justement, ou avant, parce que ce film avait été coproduit ou cofinancé par la ORTF à l'époque, c'était avant mai 68 justement, 67. Le film est passé au mois de mars 68 avant même le 22, c'était au début du mois de mars, et donc, ils avaient vu le film avant, en février. Et ils avaient les ouvriers qui étaient présents, aussi bien d'autres villes, d'autres groupes d'ouvriers très engagés étaient présents lors de la projection avec Chris Marker et Antoine Bonfanti, notre grand ingénieur de son. Et ils ont enregistré d'une part la discussion, et le film a été critiqué. Et Chris Marker, pour répondre à tout ça, il dit que mes enfants, il les appelle mes enfants, mais c'est déjà un monsieur qui avait quand même plus d'âge, qui était plus âgé que la plupart des ouvriers, qui avait autour de la trentaine ceux qui étaient très engagés. Et il dit que c'était à eux de faire le film qu'ils désiraient, parce que Chris Marker était, et Marion Marais, puisqu'ils étaient tous les deux pour le film, étaient accusés par les ouvriers d'être romantiques et de pas montrer ce qui était le plus important pour les ouvriers dans leur lutte et dans leur vie. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, avec Marker et les amis, on a ensemble tous essayer de fournir des instructeurs, bon, ben, les photographes, les ingénieurs du son, les caméramans, et il y a des photos d'ailleurs très intéressantes à Iskra et qui maintenant sont dans des archives, qui montrent justement toute cette instruction qui s'est faite sur plusieurs mois. Et ils se sont mis à faire plusieurs films, Classe de lutte d'une part, qui est quand même très important, qui montre justement l'engagement surtout des femmes, qui étaient quand même victimes du machisme à l'époque, hein, qui était importante, dont moi aussi j'ai été victime dans mes premières années surtout, mais toutes les femmes à l'époque.
Je veux bien vous croire.
Oui, et donc ça, ils ont fait Classe de lutte d'abord, et c'est vraiment un film très, très joli et très important. Et ensuite, toute une série qui s'appelle Nouvelle Société. Il y a 6 numéros qu'on présente souvent séparément, même souvent ensemble. Et sur leurs conditions, c'est des petits sujets de 15-18 minutes et qui montrent la vie des ouvriers, la vie quotidienne au travail et aussi la conséquence sur les enfants. Il y a un petit sujet sur une des filles de camionneur et ouvrière de biscuiterie et qui est aussi très jolie, comment effectivement elle est élevée par sa grand-mère et qu'elle voit jamais son père et qu'elle voit pas beaucoup ses parents en fait. Elle est donc c'est très poignant. La Nouvelle Société, c'était en réponse à Chaban Delmas à l'époque, qui était premier ministre et qui voulait instaurer, donc en réponse au mouvement de mai 68 et après une nouvelle société, donc
d'où le titre de la série des petits sujets.
Voilà, Nouvelle Société. Voilà, et c'est numéro 5, 6, 7, tout ce que vous voulez.
Par les temps qui courent, avec Inger Servola.
Vägen är lång, himlen är grå, regnet är tungt, dagen är svart, bister och sur, här ska man gå, och inte vet man riktigt vart. Klafsande fram, stan är ett träsk. Då står hon där, spanar i sky. Samlar mig snabbt, chevaleresk. Vill fröken dela paraply. Paraplyt är mitt pris, för en stund paradis. Byta regngråt mot änglars är. Med en ljud Beatrice, lång från regnrusk och dis. Ingen dålig affär precis. Allting är nytt, mitt paraply blir till en rymd med sol bemängd. Med lätta steg under vårt ly, liksom en dans i salig ängd. En syndaflod faller mig in i 40 dygn, regn dag och natt. Lyckliga dröm, din hand i min. Och det är långt till Ararat. Paraplyt är mitt pris, för en stund paradis. Byta regngråt mot änglars är. Med en ljuv Beatrice, långt från regnrusk och dis. Ingen dålig affär precis. Självfallet når vi det moment där sandfälld väg åter blir två. Möjligen har ingenting hänt, men det blev lättare att gå. Visan är slut.
Inger Servolen, cette version suédoise du parapluie de Georges Brassens, je dis son nom alors, c'est Sir Steinbergman, pour faire écho à la chanson que vous chantez votre mari, au moment où, futur mari, au moment où vous arrivez en France. Pourquoi? Parce que ce film qui vous est consacré par Maria Lucia Castrillon essaye d'imbriquer votre parcours de productrice, votre parcours de membre de Sloan et Iskra et votre vie de mère et de femme en interviewant vos deux fils et votre mari. Pour dire aussi que c'est un... Vous parliez tout à l'heure d'itinéraires singuliers, mais c'est aussi ça, c'est aussi des itinéraires personnels, des itinéraires singuliers, des choix intimes. À un moment donné dans le film, vous dites « Bon, si Maspero m'avait demandé de le suivre, j'aurais peut-être fait de l'édition, mais j'ai fait ce choix-là et j'y ai engagé toute ma personne. » D'une certaine manière, est-ce que vous avez l'impression que ce film, il filme votre travail ou votre vie ?
Forcément, et je crois que Maria Lucia a quand même bien réussi à introduire des aspects extérieurs au cinéma. Je me suis engagée quand même avec Marker et le groupe. J'avais déjà plus de 35 ans, donc j'avais déjà eu un passé. Et je pense que dans les façons de choix, la manière de travailler, je crois qu'elle vient de mon enfance et ma jeunesse en Norvège, puisque je suis née en Oslo et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans dans ce pays. Et c'est vrai que à l'époque surtout, il y avait une très grande différence entre la manière de vivre, la manière de penser, la liberté des femmes, des jeunes filles surtout, à l'époque en Norvège. Et donc on
vous
a
voulez dire au regard de la situation française.
Bah oui, moi j'étais absolument ahurie de voir comment les filles étaient surveillées, on leur faisait pas confiance, elles étaient infantilisées, c'était terrible. En fait, moi je cherchais pas à me marier. Parce que pour moi, le mariage était plutôt le carcan, en fait. Sauf en France, où effectivement, les jeunes filles avaient vraiment la conviction que sortir de leur famille et de se marier, c'était la liberté. Parce qu'effectivement, je crois qu'ils avaient plus de liberté étant mariés, parce que là, elles géraient quand même une partie de leur vie, même si pas tout. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée déjà, j'avais compris ça, quand même. Mais aussi, c'est vrai que la chanson, je me disais, mais c'est quelle langue ?
Là, suédois.
C'était du suédois, mais non, mais j'ai compris après, mais j'ai mis du temps. Est-ce que c'est de l'allemand ? Non, c'est pas de l'allemand. Bon, non, c'est vrai que j'ai apporté, je crois, cette mentalité du Nord et cette manière collective. Par exemple, quand moi j'ai introduit à Sloan de manger ensemble à midi, ben ça se faisait pas à l'époque. Maintenant, ça se fait quand même beaucoup, mais on a continué toute la carrière, toute la vie de Sloan et Iskra à l'équipe et avec des invités et les monteurs quand ils sont là.
Et alors pour celles et ceux qui n'avaient pas très envie de partager la table, ça se passait comment ?
Non, mais ceux qui voulaient, par exemple, parler de leur montage. Parfois, les monteurs, ils ont à discuter parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils sont sous pression vers la fin du montage, souvent. Et il y avait celles ou ceux qui, effectivement, tenaient beaucoup à pouvoir discuter entre eux. Et là, avec la tablette d'Iskra, c'est quand même un peu bruyant. Hein. Et on se parle, on discute, on rigole, et c'est plutôt pas calme. Et ils préféraient sortir. Mais c'est très rare. La plupart du temps, on a tout le monde à table et on est nombreux. Pourtant, à Iskra, on n'est pas nombreux à la base. Et non, c'était... Aujourd'hui, je pense qu'on peut... On a moins de différences entre les jeunes, la façon d'éduquer les gens, même s'il y a toujours des différences entre la France et la Norvège, culturellement. Mais je crois que ça a été un bagage qui m'a servi. Aussi, confiance. On vous fait confiance, justement. Mais alors, avec la responsabilité. C'est un peu lourd à porter, des fois. Quand on est trop jeune et tout ça, on vous donne parfois des responsabilités un peu trop importantes. Mais plus tard...
C'est formateur.
C'est formateur.
Vous étiez étonnée que la réalisatrice pour ce portrait interroge vos deux fils et votre mari ?
Non, moi elle m'a posé la question. Ben, bien sûr. Et s'ils me critiquent, tu les laisses faire.
En l'occurrence, leur point de vue est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure grandir avec des parents qui mènent une lutte très importante dans une usine et être éduqué par les grands-parents et du coup ne pas forcément voir ses parents très souvent, c'est une chose. Mais là, on entend aussi vos deux fils dire votre engagement total pour ce métier qui faisait que parfois vous rentriez à minuit, 1h du matin, que faire des films, c'était votre vie à temps plein. Il n'y avait pas de réserve dans la manière
non,
de le faire.
Non, je pense qu'un peu trop d'ailleurs peut-être. Bon... ça a forcément servi, peut-être, mais c'est vrai que je m'en suis fait des reproches après, mais beaucoup plus tard. Je m'en rendais absolument pas compte parce que je rentrais quand même presque tous les soirs pour faire le dîner et pour rester avec ma famille pour le dîner avec des amis souvent à table. Et ça, j'y tenais beaucoup, pas seulement pour eux, pas pour mon sacrifice, je voulais les voir. Mais c'est vrai que à certains moments, j'ai dû leur manquer. Surtout mes fils, mais mon mari aussi, sûrement. Parce que quand même, c'est vrai que parce qu'on avait des réunions le soir, on avait des projections, parce on avait des projections très souvent. C'est aussi les projectionnistes dans des maisons de production, qui nous accueillaient le soir tard et la nuit. Pour pouvoir projeter ce qu'on avait tourné. Parce qu'on avait, plein. Même, on a eu des perruques, comment dire.
C'est quoi les perruques?
Perruques, c'est les travaux un peu à côté gratuits de la télé. À l'époque, il y avait des gens qui faisaient des bancs-titres. Le bancs-titres, c'était très. En pellicule, bancs-titres, c'était très cher. Et il y a eu des amis. L'ORTF, à l'époque.
Qui utilisaient le matériel dont ils disposaient dans leurs entreprises pour bosser pour vous gratuitement.
Et qui consacraient leur nuit à faire ce genre de choses. C'était une façon de collaborer avec Sloane et Iskra.
J'allais dire, c'est quoi alors un militantisme pour le cinéma ou un militantisme pour les causes sociales dont il était question dans les films que vous produisiez?
Je pense que quand même c'était... c'est parce qu'on était amis, bon, donc ça compte.
Un militantisme de l'amitié.
Mais c'était quand c'est même à la base parce qu'ils trouvaient que c'était très important ce qu'on faisait, je pense. On trouvait ça normal en fait. C'est ça qui est formidable aujourd'hui, non, ça serait exceptionnel. Et d'ailleurs pas possible, non.
Oh, je suis certaine que ça existe.
Oui, ça doit exister toujours peut-être, mais c'est... On est techniquement beaucoup plus indépendant en numérique que en pellicule.
C'est ça, les choses qui peuvent se faire à la maison aujourd'hui devaient se faire à l'ORTF ou à la télévision.
C'est pour ça aussi que Chris Marker a été tellement attiré par le numérique et par la vidéo, en fait. Parce qu'il
avait, pour l'indépendance.
Comme c'était quelqu'un qui travaillait très vite, qui pensait très vite, et tout ça, il avait besoin... De la rapidité, lui, beaucoup plus que la pellicule permettait. Donc, il devait avoir une équipe et il s'entendait toujours bien avec, c'est pas la question. Mais c'était pour lui une sorte de servitude. Donc, il a été très, très vite conquis et convaincu par la vidéo et le numérique et tout ce qui s'ensuit.
J'ai choisi le cinéma parce que malgré tout, j'aime énormément, j'aime le cinéma. J'ai essayé de m'en défendre. Je me suis battue avec, j'ai essayé de le renier. Mais c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez extraordinaire. Et du moment que je me permets, que j'ai le culot de prendre cette arme dans les mains, je m'en sers. Mmh. Hein. Et je dis que c'est une arme parce que le cinéma, de toute façon, c'est une arme. Mmh. Alors à partir de là, ce que je dis, je prends mes risques. Oui, évidemment. Mais si j'ai le culot de dire ça, et en plus, je trouve que c'est qu'une petite parcelle de ce que j'aurais à dire si je savais dire d'autres choses que je sens, mais je ne sais pas encore le faire.
Est-ce que tu crois à un cinéma politique?
Je ne parle pas des anticommunistes de fondation. Ceux-là, de toute façon, bon, on ne les changera pas. Hein. Ce n'est pas, c'est pas le film qui les changera. Mais s'il y a des gens que ça peut remuer, que ça peut aider à être, je sais pas, peut-être plus sévère ou plus juste dans leur pensée par rapport à une certaine obédience. En plus, c'est pas pour ça qu'on a fait pour nous, finalement.
On la sent pas si sûre de pouvoir affirmer qu'elle croit au cinéma comme une arme. Simone Signoret, dans cette archive-là, juste avant, c'était Juliette Berthaud qui brandissait l'idée d'un cinéma comme une arme. Et en fait, Signoret, elle retourne l'histoire en disant « Au fait, peut-être qu'on le fait aussi pour nous et pour notre propre plaisir. »
Non, mais je peux la rejoindre, là. C'est évident que si j'avais pas eu plaisir à le faire... C'est vrai que je vois pas pourquoi on peut même pas avoir l'idée de commencer si on, il y a une attirance, il y a une fascination, mais c'est forcément, ça se concentre dans le mot plaisir, quelque part. C'est vrai. Et c'est, oui, non, moi j'ai eu grand plaisir, mais beaucoup de frayeur.
Beaucoup de frayeur?
Ah oui, beaucoup de frayeur. Financièrement. Et je continue à avoir des frayeurs financières. C'est vrai. Non, ça, c'est devenu aussi dur que les premiers temps, mais les premiers temps avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup moins de contrôle, on est sur notre dos, comme si on était des voleurs, des, je sais pas quoi, on gagne pas un rond, on n'a jamais gagné, quoi que ce soit. Moi, j'étais 20 ans sans être payé, ben j'avais le choix entre être payé et pas faire de film ou faire de film et pas être payé.
Et vous avez choisi de produire des
films.
Voilà,
j'avais pas d'autre choix en fait.
Inger Cervolin, merci beaucoup. Lettre à Inger, c'est le titre du film qui vous est consacré, portrait par Maria Lucia Castrion, c'est en salle à partir de mercredi. Et puis, on peut encourager nos auditrices et auditeurs à voir vos films. Puis, ils seront, je sais pas comment...
J'espère.
Bah oui, bien sûr.
Que surtout qu'ils vont comprendre un peu ce qu'est ce métier et aussi les situations de la société aujourd'hui. Parce que c'est fait pour aujourd'hui.
Par exemple, on devait... diffuser un extrait du fond de l'air est rouge, on conseille à tout le monde de se ruer sur le DVD.
Oui, d'une part, et aussi les groupes Medvedkin, mais aussi surtout aller au cinéma, parce que comme il y a peu de nos films qui passent dans les chaînes de télévision, il faut aller au cinéma, voir par exemple Les Révoltés, qui est notre dernier film sorti en salle. Bon, heureusement qu'il y a encore des salles qui passent ce genre de film. Les Révoltés passent toujours en province et finissent à Paris.
À la prise de son ce soir, c'était Marie Le Peintre, à la réalisation Lise Combe. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Valentin Rémy qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant sur France Culture, c'est le journal, franceculture.fr pour toutes les informations et le podcast. Et on vous dit à demain.